Nous attaquons le quatrième épisode de ma série de podcasts consacré à l'année 1978. Le programme, la mode du string et des seins nus, les bronzés et leur premier film, l'enlèvement de deux barons et Jacques Brel qui s'en va.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1978.
Le 23 juillet 1978, les Français se trouvent un nouveau roi, Bernard Hinault. Le Breton de 24 ans, affublé de son maillot gitane, remporte son premier Tour de France.
Ça vous fait chaud au cœur de voir tous vos amis bretons ici à Paris?
Ah oui, ça fait toujours plaisir d'aller voir. Et puis en plus, je crois que Paris est la capitale des Bretons, puisque je crois qu'il y en a énormément. Donc cela en plus, ça faisait encore beaucoup plus, quoi.
Vous aviez passé un contrat avec Bernard, vous leur aviez dit avant le départ du Tour, celui-là, je le gagnerai.
Non, je leur avais pas dit, mais ils avaient tous confiance en moi. J'ai eu un petit coup au moral quand au Puy-de-Dôme, mais je suis très bien me ressaisir et les conseils de Cyril et les miens, en ayant une bonne réflexion tous les deux, ont porté leurs fruits après.
Vous avez gagné le Tour de France, Bernard Hinault, alors maintenant, votre carrière, comment va-t-elle s'orienter? Que va-t-il se passer?
Bah, je crois que maintenant, on va préparer le championnat du monde et puis les classiques de fin de saison, puis après on verra. Le programme de l'an prochain n'est pas encore fixé.
L'accueil des Parisiens.
L'accueil des Parisiens était très chaud. J'étais très content de voir autant de monde sur le bord des routes et ne serait-ce que sur les Champs-Élysées, autant dans la vallée de Chevreuse que dans la plaine, partout où il y avait beaucoup de monde. Et je pense que pour le vélo, c'est très bon de relancer la bicyclette comme ça.
Le Tour de France étant terminé, intéressons-nous aux vacances de l'été 1978. La grande nouveauté de l'été, ce sont les seins nus autorisés à la plage. Les Françaises ont le droit de mettre leurs nichons à l'air. Sur la Côte d'Azur pour Europe numéro 1, un reporter sur le front.
Le sein nu s'est démocratisé, c'est un phénomène de société, une mode qui a envahi toute la Côte d'Azur. On n'y fait plus attention tellement il y en a sur les plages privées, sur les plages publiques, à Cannes, à Nice, à Menton, à Saint-Raphaël, à Saint-Tropez, c'est la fin du soutien-gorge, à tel point que l'on voit très souvent des mères de famille jouant aux boules ou prenant un verre en monokini. Ce qui était encore un peu tabou, répréhensible aux yeux de la loi, il y a encore 2 ans, est devenu maintenant monnaie courante. C'est le royaume du sein nu, tant et si bien que les CRS qui verbalisaient il y a encore 2 saisons, souvenez-vous, ne chassent plus maintenant que les nudistes qui commencent à s'installer, il est vrai, un peu partout. C'est en effet une évolution des mœurs. Pour certains, le monokini, ça ne suffit plus. On a donc inventé le string à la brésilienne. C'est une ficelle, un fil, dirais-je, une sorte de cache-sexe qui ne cache en fait que l'essentiel. C'est le fin du fin avant la libération totale, à savoir le nudisme intégral. On n'en est pas encore là, mais à Nice, par exemple, j'ai vu certaines femmes très à l'aise sur la plage porter en guise de maillot de bain un minuscule morceau d'étoffe ou encore un gros galet sur le bas du ventre.
Les nibards sans textile à la plage, une révolution. Mais attention à l'envers de la médaille. Les coups de soleil.
À Saint-Tropez, on dit que l'on reconnaît les nouveaux touristes non pas à la couleur de leur teint, mais de leur postérieur. Et puis, les coups de soleil sur les seins, ça fait mal, mais sur les fesses, c'est encore plus ennuyeux car on ne peut plus s'asseoir.
Allons demander à ce plagiste de Saint-Tropez ce qu'il pense de tout ça.
J'ai déjà vu quelques femmes qui étaient vraiment toutes nues, là.
Deux ou trois, mais enfin, ça se compte, hein.
Elles se mettent un galet ou un tout petit morceau de tissu au bas du ventre.
Exactement, toujours un petit bout de tissu.
Eh.
Ouais. C'est fort sympathique,
eh.
Mais la mode pousse loin. Eh.
Vous avez l'impression que le string va prendre comme les seins nus aussi, non?
Je ne sais pas, ça sera quand même un peu plus réservé.
Eh. Et pour les hommes, là, ça sera plus dur. Hein.
Oui, oui.
Toujours en explorant le phénomène seins nus, le reporter d'Europe numéro 1 trouve un patron de plage de Saint-Tropez qui accepte les nibards à l'air depuis longtemps.
C'est rentré dans les mœurs depuis 1970, puisque c'est moi qui ai eu la première plage au sein nu. J'ai même été défendu par Maître Badinter à la 9e chambre à Paris.
À l'époque, parce que vous aviez des ennuis?
Parce que j'avais des ennuis, et des clients à moi avaient des ennuis, et c'est ce qui a fait, en fait, à travers cette procédure, que tout ça est rentré dans les mœurs. C'est un phénomène un peu sociologique, en fait.
Alors, il faut reconnaître que sur certaines plages de Saint-Tropez, maintenant, on ne remarque que les femmes qui ont des soutiens-gorge, en fait. Hein.
Absolument, et le phénomène inverse a joué, c'est-à-dire que si une belle fille a un soutien-gorge, elle est beaucoup plus remarquée qu'une fille qui a de beaux seins, en fait. sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que, à travers toute cette évolution, le sein n'est plus un organe sexuel. Et c'est certainement grâce à ça que...
En tout cas, les seins sont nus, mais je vois aussi que pas mal de fesses nues. Hein. Ça, c'est le string. Hein.
Oui, il y a le string. Nous avons lancé le string avec une copine allemande en 1974. Si la silhouette est belle, si le fessier est haut, c'est absolument ravissant.
Et nous voilà arrivés au grand débat existentiel de l'été 1978. Pour ou contre le string ? Cette estivante n'est pas emballée.
Moi, je trouve que ou bien on est nu, ou bien on a un maillot, mais ce milieu-là, ça me plaît pas, moi. Tout le monde se promène comme il a envie, les gens mettent un maillot s'ils en ont envie. Et puis comme ça, tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde est pareil.
Au début, ça n'a pas été trop dur tout de même. Il y a certains tabous.
Au début, ça a été défendu. Comme maintenant, les gens qui se mettent nus, c'est défendu. Mais je trouve ça beaucoup mieux. Hein. Comme ça, tout le monde est libre. Il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes.
Vous pensez que l'évolution voudrait que d'ici un an ou deux ans,
certainement.
Tout le monde soit tout nu?
Mais d'ailleurs, il y en a déjà beaucoup qui sont nus même. Que c'est défendu, il y en a déjà beaucoup qui sont nus sur les plages. Hein. Des femmes et des hommes.
Et les hommes, ils ont toujours des maillots. Hein.
Moi, je trouve qu'ils ne devraient plus en avoir. Enfin, à partir du moment où on est arrivé au string pour les hommes, je trouve que ça ils devraient l'enlever carrément. Hein.
Chez les adeptes du string en 1978, il y a aussi celles qui veulent juste se bronzer le derrière.
On a au moins l'arrière qui est bronzé. Et puis, on est dans une plage où on doit, disons, quand même porter des maillots. Alors, on n'est pas chez les nudistes entièrement. Alors, comme ça, on a quand même, vulgairement, le postérieur qui est bronzé. Et le string a l'avantage qu'on n'a pas de marque.
Et vous n'avez pas peur que ça vous ôte un peu de la féminité, comme on dit
Non, parce que justement, on garde quand même une certaine féminité, parce que toute nue, ça fait vraiment trop toute nue. Parce qu'une femme toute nue est très jolie à voir, mais... c'est pas tellement sexuel.
C'est fantastique en tout cas comme évolution. En l'espace de quelques années, là je me souviens, au début les femmes avaient du mal à enlever leur soutien-gorge et maintenant...
Ah oui, maintenant de plus en plus. De toute façon, maintenant les femmes avec soutien-gorge, on les considère vraiment comme les grandes bourgeoises de la plage et à Saint-Tropez, ça n'existait plus.
Durant l'été 1978, pendant que le reporter d'Europe numéro 1 se rinçait l'œil sur les plages, sur notre antenne, on écoutait ça. Sea, Sex and Sun de Serge Gainsbourg. Sex and Sun de Serge Gainsbourg en 1978. Ce titre est un immense succès et c'est aussi la bande originale du premier film des Bronzés.
1978, on de la raconte sur Europe 1.
En 1978, les jeunes comédiens de la troupe du Splendide, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Christian Clavier, Josiane Balasko et Marianne Chazelle se lancent dans l'aventure des Bronzés. Un film adapté de leur pièce de théâtre à succès, Amour, coquillages et crustacés. Réalisation de Patrice Lecomte.
Ça se passe en Afrique, en Côte d'Ivoire, et on va essayer de bronzer au maximum, de bouffer le plus possible, de passer les nuits les plus agréables possibles. Et donc c'est une espèce de... C'est pas une espèce, c'est une satire de la vie dans les clubs de vacances, de la vie en commun. Et le film se présente sous la forme d'une chronique, et on suit donc ces 8 personnages de départ jusqu'au bout, pendant une semaine, où ils vont partir bronzés, heureux, crevés sans doute, de s'être dépensés comme ça, mais ivres de bonheur.
Viens nous voir à Ghana,
vous avez amené le soleil.
Vous avez le soleil.
Il nous a amené le soleil.
T'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci.
Et ironiser sur le comportement des Français en vacances s'avère être un excellent filon.
Figurez-vous que moi aussi, je ferme mon salon le lundi. Avant, je fermais le mardi, mais c'est tellement moins commode pour le week-end.
C'est quoi vos prénoms?
Sa femme a appris notre liaison par le premier shampooineur. Tenez-vous bien, elle a tenté d'électrocuter avec un séchoir.
Oh là là. Écoutez-moi, dans un autre genre, j'ai eu les polyvalents dans mon salon de beauté pendant 3 jours.
Et c'est quoi vos prénoms?
J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de me mettre au club.
Alors, il a été très chic et puis il m'a dit, ma petite Gisèle, trouvez notre amour, il faut qu'on se quitte.
Là, ça a bien fait.
Est-ce que moi, c'est Jean-Claude, mon prénom ouais.
Vous allez voir. Vous allez très très vite vous remettre, vous, ici.
Il faut réaliser qu'en 1978, aucun des jeunes comédiens du film n'est encore une vedette. Mais le film plaît à la critique. Et du coup, on voit les jeunes acteurs partout, y compris, déjà, chez Michel Drucker.
Monsieur Michel Blanc, dans le film Les Bronzés, vous êtes le gars qui prend ce qu'on appelle des bites.
Ah ben moi je suis...
Il drague, mais ça marche pas.
Je suis quelqu'un à qui on a dit le club c'est la mort du couple, qui est célibataire et qui se dit c'est formidable, je vais y aller. Et puis en fait, c'est pas aussi évident qu'on le dit. Enfin pour lui, ça marche très très mal.
Bon. En revanche, pour votre voisin de gauche, qui est lui, Géo, prof de gym, il est contre plus ses conquêtes. Il est même tellement au bout du rouleau qu'il se fait une contracture en donnant un cours de karaté.
C'est pas facile, c'est du travail tous les jours quand même.
Oui. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, Thierry Lhermitte?
J'ai fait du café-théâtre, et puis du café-théâtre, et puis encore un petit peu de café-théâtre, et puis, et puis le film maintenant.
Je suis sûr que ça va vous apporter maintenant autre chose. Monsieur Jugnot, alors vous, c'est extraordinaire. Dans le film, Jugnot, avec sa femme, ils ont décidé d'aller faire une expérience de couple moderne au club.
Enfin, ils n'ont pas décidé, c'est elle qui m'a posé un petit peu. Il y a un sujet gros beaucoup.
C'est Balasko.
C'est Balasko, ma femme. Et ils ont essayé de faire ça et ça a foiré lamentablement. Ah oui, ils passent des vacances désastreuses.
L'amour libre, chacun fait ce qu'il veut au club, c'est pas ça.
Bah, en tout cas, dans ce contexte, ils n'arrivent pas bien.
Bon.
Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quelle heure il est? 11h. T'as dormi là? Tu n'as pas trouvé ta case? Eh si, mais mon collègue, un mec qui ronfle. Au bout de 2 heures, j'en ai marre de siffler assis sur mon lit, je suis venu dormir là. Hein? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais attaqué par des bestioles.
Oui, ils sont plutôt inoffensifs ici.
Bah, tu pars, je vais te montrer mes bras, tiens, j'étais bouffé par les moustiques. Après ça, j'ai un lézard qui est rentré dans le sac. Je vais me faire rapatrier par Europe Assistance, moi ça va pas faire un pli, tu vas voir.
T'emballes pas, tu viens juste d'arriver.
Mais je m'emballe pas, je peux pas supporter le soleil, hein.
Les Bronzés font un carton. 2 300 000 entrées. Mais ça n'est pas le plus gros succès de l'année 1978. Les Bronzés sont devancés par l'adaptation d'une autre pièce de théâtre, La Cage aux Folles, avec Hugo Tognazzi et Michel Serrault.
Je suis furieuse de vous connaître, hein? Le papa de la vilaine qui m'a volé mon grand-fils.
Albin.
Vous vous rendez bien compte que je suis ridicule. Alors je me suis dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où personne n'est plus ridicule. Et j'y vais.
Moi j'en peux plus. Je vais la tuer. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte. Avec mesure et décision. Que main de fer dans un
gâteau. D'accord, oui.
Essaye maintenant. C'est la biscotte de l'homme.
D'accord.
Allez, on passe au plus difficile.
Un peu de confiture?
Oui, prends la cuillère.
Je prends la petite cuillère.
Oui, c'est ça. Non, cosy, non. Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait un thermomètre que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Tu la tiens sans trembler.
Ben, d'accord, oui. Sans trembler. Ben oui. Ah, j'ai cassé ma biscotte.
Au box-office, La Cage aux Folles est égalée en France par un film américain, Grease, adaptation d'une pièce de Broadway. Aux États-Unis, Grease consacre John Travolta, 24 ans à peine, comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. En France, on est un peu plus mitigé.
Ouais, il danse bien, toi, ce mec cool et tout, c'est la jeunesse américaine et tout.
Pourquoi allez-vous voir ce film ?
J'en sais rien du tout, parce qu'il paraît qu'il n'est pas bon.
Ça me dérange pas, c'est la première fois que je vais en voir un et c'est pour voir.
Non, c'est bien, c'est sympa, il y a de l'ambiance, il y a de la musique.
John Travolta.
Oui.
Alors, que vous en pensez ?
Oh, il est normal.
Bah, c'est la musique, la danse, tout ça, c'est pour ça.
Et avant de voir les films de Travolta, est-ce que vous voyez des comédies musicales ?
Oui.
Lesquelles, par exemple ?
Parapluie Cherbourg.
Ça fait du bien la jeunesse, c'est enthousiaste, c'est pur quand même.
Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi 250 millions de personnes trouvent que c'est formidable et pourquoi il est numéro un dans un pays.
C'était You Are the One That I Want, tube principal du film Grease en 1978. Titre numéro 1 aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et en pleine période disco, ce morceau à la sauce des années 50 s'est vendu à 1 800 000 exemplaires.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1978.
Le 23 janvier 1978, le baron Empain, patron du groupe Schneider, est enlevé à la sortie de son appartement parisien. Sur Europe numéro 1, le chauffeur du baron raconte comment les truands l'ont embarqué.
Il y en a un qui avait un revolver barillé dans chaque main, et puis un autre qui était derrière, un plus grand, qui avait un revolver. Alors ils se sont jetés sur moi, ils m'ont sorti de la voiture, ils m'ont jeté sur le trottoir, ils m'ont pris. Ils m'ont traîné sur une quinzaine, 15-20 mètres, je sais pas au juste. Ils m'ont jeté dans cette fourgonnette bleue. Alors, il y en a deux qui sont montés tout de suite derrière moi, qui m'ont ligoté.
Avant qu'ils vous fassent monter dans cette estafette, vous avez eu le temps de voir ce qui se passait avec votre patron, le baron Empain ?
Non, j'ai pas pu. Ils me traînaient, vous comprenez, par la veste, par les épaules, et j'avais le dos de la veste sur le visage. Je ne voyais absolument rien. Mais il me semble, quand ces deux gars m'ont braqué, il me semble qu'il y en a deux autres qui passaient du côté droit de la voiture pour coincer le baron Empain, pour le barrer.
Est-ce que le thème des enlèvements, la possibilité d'un rapt, était un sujet que vous aviez déjà évoqué avec le baron Ampin?
Non, jamais. Jamais. Puis lui qui n'avait pas peur, il a toujours dit, en disant, moi, ça ne peut pas m'arriver à moi, et il était trop sûr de lui. Puis moi, je ne croyais pas non plus que j'arriverais un jour.
Le baron Ampin, à l'époque, est à la tête de près de 300 sociétés, dont beaucoup sont françaises, alors que lui est belge. Cet enlèvement est revendiqué par une organisation d'extrême-gauche, les Noyaux armés pour l'autorité populaire. Le premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand, condamne l'enlèvement.
Nous condamnons formellement ce type d'action et que nous formons des vœux pour que cet enlèvement n'ait pas de conséquences tragiques. Pour nous, la qualité des personnes, leur situation sociale, leur fortune ou leur absence de fortune, leur position politique importe peu, nous tiendrions ce raisonnement pour quiconque. Et nous le tenons, en la circonstance, pour le baron Ampin.
Et alors que le baron Ampin est retenu par des terroristes d'extrême gauche depuis 6 semaines, un autre aristocrate belge est enlevé. Encore un baron, mais en Belgique, cette fois.
Comme le baron Ampin, le baron Braart a été enlevé sur le chemin de son bureau. Sa voiture a été retrouvée sur le parking de l'immeuble qui abrite la compagnie d'assurance dont il est propriétaire à Anvers et d'où il dirige toutes ses affaires. Apparemment, il n'y a eu aucun témoin et les ravisseurs ont bénéficié d'une certaine avance avant que la police ne soit prévenue. Le baron a disparu hier matin, ce n'est qu'aujourd'hui que la nouvelle a filtré.
Le baron Braart est à la tête de l'une des plus grandes fortunes de Belgique. Il détient la plus ancienne société d'assurance d'Anvers. Il est très connu dans la haute société belge. Un de ses amis témoigne sur Europe numéro 1.
Une grande famille anversoise, toujours honnête, à la pointe du progrès, et en fait le maximum pour l'économie de notre ville et de notre pays. Je considère le baron Braart comme un homme parfaitement honnête, un homme intègre et un homme toujours affable, poli, aimable. Sans être peut-être particulièrement peu connu du public anversois, en ce qui concerne la partie commerciale d'Anvers, la famille Braart est très reconnue, tout comme d'autres familles anversoises, et ils ont toujours été à la pointe du progrès.
Sortant beaucoup, on le rencontre dans tous les cocktails les plus huppés. En fait, sauf sur le plan de la fortune, mais qui excède quand même plusieurs dizaines de millions de francs lourds, l'on peut dire que le baron Braart a une personnalité que l'on pourrait peut-être rapprocher de celle du baron Ampin. Cette fortune, il est parvenu à l'édifier non seulement grâce à sa compagnie d'assurance, mais aussi dans le commerce d'huile végétale importée d'Indonésie et dans la construction d'immeubles à appartements multiples sur la côte belge. Il y a 30 ans à peu près, le baron Charles Braart s'est fait construire dans la banlieue d'Anvers un château entouré de plusieurs dizaines d'hectares de bois et qui est toujours aujourd'hui considéré par tous ceux qui le connaissaient comme un sommet de luxe et de confort.
L'enlèvement du baron Braart est une énorme surprise. Il n'avait reçu aucune menace.
Dans la région de Schoten, la famille Braart est appréciée. Les domestiques, les jardiniers, le régisseur travaillent au château depuis longue date et même parfois de père en fils, puisque la famille Braart, d'origine allemande, y est installée depuis 150 ans. On s'y montre à la fois peiné et surpris par l'enlèvement, car jamais le baron Braart n'avait donné l'impression de craindre quoi que ce soit, malgré les conseils que des amis lui donnaient, surtout depuis l'enlèvement du baron Ampin, il refusait catégoriquement toute forme de protection personnelle, quelle qu'elle soit.
Évidemment, deux barons enlevés en moins de 2 mois, on se demande s'il y a pas un lien. Mais rien ne filtre.
Silence total dans l'entourage direct du baron, silence total des enquêteurs. Nous sommes sûrs que le baron est prisonnier et certaines informations pourraient mettre ses jours en danger, ne cesse de déclarer le procureur du roi. Et si certains journaux belges n'hésitent pas à imprimer en gros titre « Une forte rançon aurait été demandée », c'est uniquement parce que tout le monde se pose des questions à propos de la petite phrase du procureur du roi hier soir. Nous avons la preuve matérielle qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Dans la splendide propriété du Kallesberg, à 10 km d'Anvers, sa femme et ses 3 enfants attendent, dont sa fille Marianne, belle-sœur de la princesse Hélène de France, qui est arrivée hier après-midi de Gstaad, où elle habite.
Quelques jours après l'enlèvement du baron Braart, sa famille reçoit un appel. Au bout du fil, un homme à l'anglais très approximatif qui dit être le porte-parole des ravisseurs.
Hello, je suis Monsieur D. Nous détenons le baron Braart. Si vous voulez le revoir, c'est 8 millions de francs.
D'accord, Avant toute chose, nous voudrions la preuve que vous détenez notre père. La famille du baron reçoit une montre et un trousseau de clés qui appartiennent bien au baron Bracht. Mais contrairement au baron Empin, derrière, il n'y a pas de revendication politique. A priori, il s'agit donc de deux équipes de truands différentes. Le 27 mars 1978, trois semaines après son enlèvement, le baron Empin est relâché par ses ravisseurs.
La libération du baron Empin a été si soudaine que personne ici, avenue Foch, ne l'a vu rentrer chez lui. Il est entré directement en voiture et le gardien de la paix en faction devant le garage privé ne l'a même pas vu passer. Quelques minutes après son arrivée, tout l'état-major de la police judiciaire s'est réuni dans l'appartement de l'industriel pour entendre son premier témoignage. Dehors, devant le 33 avenue Foch, c'était l'animation des grands événements. Voiture garée en hâte à la diable, journaliste, photographe et badaud. Une animation qui s'est transformée en pagaille indescriptible quand le commissaire Ottavioli, le patron de la brigade criminelle, et le commissaire Broussard, le patron de l'anti-gang, sont sortis. Le commissaire Ottavioli, visiblement soulagé et qui ne cachait pas sa joie...
Depuis la libération du baron Empin, la famille du baron Brasch n'a reçu aucun appel des ravisseurs. Ce qui inquiète le fils du baron, Théo Brasch, qui lance un appel à la télévision belge.
Nous n'avons pas de preuve qu'il est en vie, mais nous n'avons aucune preuve contraire non plus.
Alors, vous voudriez lancer un appel aux ravisseurs, vous m'avez dit, et vous voudriez le lancer en anglais. Pourquoi ?
Eh bien, pour la bonne raison que le langage qui a été employé avec les ravisseurs pendant les quelques coups de téléphone que nous avons eus avec eux était l'anglais. Vous voyez ?
Alors c'est pour employer leur
véhicule,
langage,
enfin... C'est ça.
Oui. Et alors, quel est ce message ? Moi, je...
Bien, si vous permettez que ce soit donc en anglais. This message...
Le message s'adresse à la personne dont la lettre clé est D, mais aussi à tous ceux qui prennent part à la captivité de mon père. Vous devez savoir et vous rendre compte que votre silence, qui dure depuis plusieurs semaines, et ceci sans raison, provoque une grosse angoisse relative à la santé et à la vie de mon père. Vous devez vous rendre compte du fait que, physiquement et moralement, une longue captivité est extrêmement dangereuse pour un homme de 63 ans.
Le fils supplie les ravisseurs de reprendre contact au plus vite. Le lendemain, la famille Brasch reçoit un terrible coup de téléphone.
Le baron est mort. Vous le trouverez pas très loin de l'autoroute Anvers-Liège.
Immédiatement, des battues ont été organisées, l'armée et la gendarmerie ont été mobilisées, et à 9h30 ce matin, il devait faire la macabre découverte, le corps du baron Brasch à peine caché par un tas d'immondices.
35 jours après son enlèvement, le cadavre mutilé du baron Bracht est retrouvé dans une décharge.
La famille avait donc bien raison de craindre le pire, mais contrairement à ce qu'elle redoutait, ce n'est pas la détermination dont a fait preuve la police française dans l'affaire Empin qui a effrayé les ravisseurs. En effet, selon les premières indications que la police nous a données, le baron serait mort depuis près d'un mois, soit quelques jours après son enlèvement.
Et l'autopsie confirme que pendant que les ravisseurs négociaient une rançon, le baron était déjà mort, depuis plus de 3 semaines.
En effet, ils ont dû faire la preuve d'un cynisme à peine croyable en essayant d'extorquer à la famille une rançon de 8 millions de francs français, alors que le corps du baron reposait déjà à ce moment-là dans son linceul. La police, nous a assuré le procureur du roi, ne voit se dessiner aucune piste. Seuls des légers indices sont examinés à la loupe. Par exemple, nous a-t-il dit... Il n'y a que des habitants de la région où le cadavre a été découvert qui auraient pu imaginer de cacher le corps à cet endroit-là, noyé dans 20 cm de boue marécageuse, une excavité creusée à l'occasion de la construction d'une nouvelle autoroute recouverte par quelques immondices. Alors, les enquêteurs portent tout naturellement leur espoir sur une éventuelle mésentente qui serait née au sein du groupe des gangsters et le coup de téléphone de dimanche soir mettant les policiers sur la piste du cadavre serait alors une sorte de défi lancée par le porte-parole des gangsters à l'égard de ses complices. Et c'est peut-être là une première imprudence qui a été commise par eux, une imprudence qui pourrait leur coûter cher.
La police belge ne mettra jamais la main sur les assassins du baron Bracht.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude.
C'était « Ma préférence à moi » de Julien Clerc, bien sûr. Titre écrit par Jean-Loup Dabadie qui propulse Julien Clerc au-devant de la scène. Sachez que même si elle n'est pas citée dans cette chanson, ce titre est destiné à Miu Miu, la compagne du chanteur. Miu Miu qui, à l'époque, a quitté l'acteur Patrick Devers pour Julien Clerc.
L'année 1978.
En 1978, Jacques Brel a 49 ans et il est affaibli par un cancer du poumon. Il vit dans les îles Marquises, en Polynésie française, et il multiplie les allers-retours pour consulter ses médecins à Paris. Mais Brel n'évoque jamais publiquement ses problèmes de santé. Les Français les découvrent fin septembre 1978, quand Paris Match publie des photos du chanteur à la sortie d'une clinique parisienne. Brel est furieux. Il porte plainte.
L'hebdomadaire Paris Match a été saisi aujourd'hui dès sa sortie dans tous les kiosques, et cela à la requête du chanteur Jacques Brel. La justice a donné raison à Jacques Brel et a donc ordonné cette saisie. La saisie d'un journal est un événement rarissime. Et si celle-ci a eu lieu aujourd'hui, c'est qu'une grave atteinte a été portée à la vie privée d'un homme. Les trois pages de photos de Match représentant Jacques Brel sortant d'une clinique pour aller à une consultation, je n'en dirai pas plus, je vous dirai les attendus de la justice, de la décision de justice. Les révélations faites par le texte ou par l'image dans ce numéro de Paris Match constituent une intrusion revêtant l'aspect d'une persécution, dans la mesure où elles ne visent plus le côté professionnel de la vie de Jacques Brel, mais le comportement et les réactions de celui-ci face à la maladie.
Quelques jours après cette victoire de Brel sur les paparazzi, le 9 octobre 1978, Jacques Brel est mort.
Jacques Brel est mort à 4h10 ce matin dans une chambre anonyme du troisième étage de ce bâtiment triste qui abrite les services de cancérologie du professeur Lucien Israël, un spécialiste de renommée mondiale. Jacques Brel était entré incognito vendredi dernier à l'hôpital franco-musulman de Bobigny sous un faux nom. Un faux nom qu'il s'était fabriqué avec ses deux prénoms, Jacques et Romain. Et quelques personnes seulement savaient qui se cachait sous le nom de Jacques Romain. On le sait maintenant officiellement, Jacques Brel était atteint depuis 5 ans d'un cancer du poumon. La première alerte, il l'avait ressentie en décembre 73. Tout de suite, Jacques Brel avait consulté les meilleurs spécialistes et en février 74, on lui avait enlevé les trois quarts du poumon gauche. Depuis, Jacques Brel allait mieux, mais il était resté d'une grande fragilité pulmonaire et il revenait régulièrement en France subir un traitement.
Brel était hospitalisé depuis 3 jours. Et c'était un patient très apprécié pour sa simplicité.
Ici à Bobigny, on observe la plus totale discrétion sur les derniers instants de Jacques Brel. C'est que chacun a été impressionné par le calme et la lucidité de Jacques Brel. Jacques Brel qui a suivi son traitement et l'évolution de sa maladie minute par minute. Sur chaque chose, il a voulu savoir le pourquoi et le comment. Il a demandé des explications sur tous les soins qu'on lui prodiguait. Et il écoutait les réponses qu'on lui faisait avec un calme et une hauteur d'esprit qui lui ont valu le respect de tous. À l'hôpital de Bobigny, on se montre ému et respectueux des dernières volontés de Jacques Brel. Brel, lucide jusqu'au bout, qui avait convoqué vendredi soir le directeur de l'hôpital pour lui demander que sa mort soit entourée de la plus extrême discrétion. Brel, qui a souhaité aussi que son corps soit enterré dans le petit paradis qu'il s'était choisi lui-même il y a 10 ans, de l'autre côté de la mer, aux îles Marquises. Bobigny, Gilles Rabine, Europe 1.
La rédaction d'Europe numéro 1 contacte Eddy Barclay, qui, quelques mois plus tôt, a produit le dernier album de Jacques Brel.
Il s'est donné un mal de chien, il était très 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 fatigué. C'était un effort surhumain pour faire et finir ce disque. Et il était obligé, en partant du studio, d'aller immédiatement se reposer jusqu'au lendemain pour commencer les séances. Je veux dire, ça ne lui laissait pas beaucoup le temps de sortir. Et même quand il venait déjeuner ici, de temps en temps, il ne restait pas longtemps, il ne pouvait pas rester longtemps.
Pourquoi a-t-il fait ce disque alors ?
Il ne l'avait pas enregistré depuis pratiquement 10 ans. Et je crois que Jacques a voulu nous faire un espèce de cadeau, vous savez. On dit, voilà, je suis venu à Paris, je t'amène un cadeau. Et bien son cadeau, c'était ce 10-33 tours en question.
Parmi toutes les personnes que la rédaction d'Europe numéro 1 contacte le jour de la mort de Brel, il y a Georges Brassens, son grand ami. C'est Europe numéro 1 qui lui apprend la mort du chanteur.
Ouais, on devait se voir la semaine dernière. Je pensais que il s'en était tiré, quoi. Et en m'apprenant la nouvelle, vous m'effondrez, là. Je peux rien dire. Je crois pas qu'il soit mort. J'ai jamais cru, moi, que personne était mort. Vous savez, quand on aime les gens, ils meurent, bien sûr. Enfin, ils s'absentent un petit peu. C'est une espèce d'absence qui va commencer, quoi. Mais la mort, j'ai du mal à l'admettre. Jamais personne de ceux que j'ai aimés n'est mort, moi, parce que J'ai une faculté de souvenir extraordinaire et les gens que j'aime continuent de vivre en moi. Et Brel, lui, avec tout ce qu'il a fait avec son œuvre, il sera relativement facile, enfin en tout cas pour moi et pour ses amis, de le faire revivre. Il n'y aura qu'à écouter ses disques et puis faire marcher sa mémoire. Pour moi, il n'est pas mort, Jacques.
Quel est le plus beau souvenir que vous garderez de Jacques Brel ?
Le souvenir de Brel me demandant à ses débuts s'il devait ou non continuer le métier, parce que quand il est arrivé aux Trois Baudets, il avait de grandes difficultés à se faire accepter par le public. Il avait une petite moustache en ce temps-là, une guitare, et il n'était pas le seul. À cette époque-là, tout le monde avait une petite moustache et une guitare, alors le public ne marchait pas trop et il était très inquiet. Il se demandait s'il devait retourner en Belgique s'occuper de cartonnage ou continue à faire le métier. Et nous autres, ses amis des Trois Bonnets, nous l'avons encouragé à rester.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au Marquis.
On va donc se quitter avec Les Marquises, titre phare du dernier album de Jacques Brel, qui s'est éteint donc en 1978. La suite et la fin, demain. Guillaume Maury et Julien Pichenet sont mes acolytes dans cette aventure. Réalisation signée Pierre-Yves Falson. La suite de notre immersion dans l'année 1978, dans le 5e épisode.
Retrouvez On de la raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.